Merci, Monsieur le Président. Je voudrais brièvement débuter mon intervention en remerciant la présidente de l'AMX4, l'ambassadrice Elena Kuzmanovska Bondix, de la République de Macédoine du Nord, pour la manière dont elle a pu faciliter nos discussions ainsi que pour ses excellents travaux quant au rapport de cette réunion d'experts qu'elle a bien voulu nous présenter oralement ce matin. Monsieur le Président, nous avons eu le plaisir avec nos partenaires et amis indiens de présenter aux États parties lors de la réunion d'experts de septembre 2021 les travaux et études réalisées sur notre proposition conjointe visant à établir une base de données au titre de l'article 7 de la Convention, un des piliers de notre instrument de désarmement et de non-prolifération. En effet, l'article 7 de la Convention constitue la clause de sécurité collective de celle-ci. La mise en œuvre de cet article est donc reconnue comme une obligation essentielle de la Convention, bien qu'il n'existe pas de procédure ou de mécanisme détaillé pour sa mise en œuvre. C'est là la raison première de notre proposition conjointe avec l'Inde, qui remonte déjà à 2018 et qui vise à établir une base de données pour l'assistance et la réponse au titre de l'article 7. Cet outil sécurisé en ligne, sous l'administration et la maintenance de l'unité d'appui à l'application de la Convention, sera ouvert à tous les États parties et visera, dans son objectif premier, à faciliter la mise en œuvre des dispositions de l'article 7 de la Convention, en permettant notamment l'appariement d'offres et de demandes spécifiques d'assistance. Monsieur le Président, cette proposition se veut avant tout concrète et opérationnelle pour répondre aux besoins de développer des mesures pratiques et de coordination avec les organisations internationales pertinentes pour répondre à l'usage d'une arme biologique ou à toxine, tout en prodiguant aux États parties un outil de sensibilisation, d'échange d'informations, de préparation nationale et internationale, ainsi que de renforcement des capacités pour un tel événement. La base de données permettrait ainsi la fourniture d'assistance sous diverses formes, notamment d'urgence, d'endiguement ou pour le rétablissement post-contamination. Cette base de données spécialisée pourra être créée sur le site internet de la Convention et tenue à jour par l'unité d'appui à l'application de la Convention sur le même modèle que la base de données créée pour l'assistance au titre de l'article 10, mais distincte de celle-ci. Il nous faut en effet bien garder à l'esprit que toute ressource mobile projetable qui serait éventuellement enregistrée dans une base de données au titre de l'article 7 ne pourrait avoir de finalité autre que celle en cohérence avec l'objet de ce même article. Aussi, des missions d'enquête et d'investigation sur l'occurrence d'une arme biologique ou sur l'avancement de la coopération internationale à des fins pacifiques seraient exclus. Cela afin d'éviter tout chevauchement avec l'article 6 ainsi que toute duplication avec la base de données de l'article 10. Monsieur le Président, cette proposition est des plus abouties techniquement grâce aux nombreux travaux et études dont elle a fait l'objet. En 2020, avec le soutien de l'unité d'appui à l'application de la Convention, une analyse comparée des bases de données utilisées dans plusieurs organisations internationales a été conduite pour en tirer des conclusions quant au développement du concept de base de données au titre de l'article 7. En outre, une série de trois ateliers virtuels a été conduite au printemps 2021 avec l'aide de l'unité d'appui à l'application de la Convention, la participation des États parties, des organisations internationales et de la société civile. De surcroît, la réunion d'experts sur l'assistance, la réponse et la préparation de la Convention de septembre 2021 a permis un échange de vues précis et approfondi avec tous les États parties sur les questions clés pour la mise en œuvre de la base de données et nous les en remercions vivement. Enfin, nous avons conduit en marge de cette réunion des États parties un événement parallèle où nous avons présenté conjointement avec l'Inde notre document de travail final. Au total, les résultats de cette approche inclusive et co-construite pour notre proposition ont permis d'atteindre une compréhension commune sur les objectifs et le contenu d'une base de données au titre de l'article 7, ainsi qu'ils sont reflétés dans notre document de travail final, publié à l'occasion de cette réunion d'ESDA-Parti. Nous avons enfin, en effet, retenu avec l'Inde une approche graduée permettant des discussions inclusives avec tous les États parties à la Convention en vue de la publication de cette version actualisée de la proposition incorporant leur retour ainsi que leur vue. Monsieur le Président, je veux terminer mon propos en revenant brièvement sur la proposition d'unité biomédicale mobile qui soulève des questions importantes et nécessite ainsi de plus amples discussions, comme cela a pu être indiqué ce matin par la présidente de l'AMX4. En effet, le champ d'action ainsi que le mandat qui serait celui de ces unités biomédicales mobiles ne nous apparaît pas clairement. Comment concilier concrètement et dans les faits une proposition visant à mettre en œuvre trois articles de la Convention qui n'ont absolument pas le même objet, respectivement les articles 6, 7 et 10, et ce, sans impliquer de duplication dommageable à la bonne mise en œuvre de la Convention. À cet égard, la proposition n'est pas claire et ne permet pas de comprendre comment pourrait être évité un recoupement contradictoire des articles en question. En outre, pour la seconde année de suite, le projet de résolution présenté en première commission de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le mécanisme du secrétaire général des Nations Unies pour les enquêtes en cas d'allégation d'usage biologique, dont le mandat recoupe en partie les dispositions de l'article 6, a été rejeté, démontrant l'absence totale de consensus sur la vision proposée par la délégation à l'origine de ces initiatives. Enfin, il faut ajouter à cela l'absence de clarté qui ressort de cette proposition pour sa mise en œuvre opérationnelle. Comment fonctionnerait cette flotte de laboratoires mobiles et qui en aurait la charge s'agissant de son administration? Il semble que cela impliquerait nécessairement l'adjonction de personnel technique ad hoc en tant que l'unité d'appui à l'application seule n'aurait pas les compétences ni les moyens techniques d'entretenir et d'administrer de tels laboratoires. Je vous remercie, Monsieur le Président.